Radio Prague, les informations.
Petr Nečas est le président du Parti civique démocrate tchèque. Trois vice-présidents de l'ODS ont quitté leur poste. 2 millions de personnes ont déjà visité le pavillon de République tchèque à l'Expo 2010 à Shanghai. Le 21e congrès du Parti civique démocrate ODS, qui se tient à Prague, a élu au poste de président du parti Petr Nečas, leader électoral de l'ODS. Il a obtenu 538 des 617 voix, a été donc élu par une majorité des 87%. Après Václav Klaus et Mirek Topolánek, Petr Nečas est donc devenu troisième président du parti. Son élection était attendue car il était le seul candidat à la présidence de l'ODS. Par contre, l'élection de Miroslava Němcová au poste de premier vice-président du parti a surpris de nombreux observateurs. En obtenant 314 voix de 599 voix, elle a devancé David Vondráška qui occupait ce poste jusqu'à présent. Le congrès apportera des changements importants dans le bureau politique du Parti civique démocrate. Trois vice-présidents du parti, Ivan Langer, Petr Gandalovic et Petr Bendl, ont quitté leur poste. Le président de la République, Václav Klaus, a nommé Miroslav Singer nouveau gouverneur de la Banque de République tchèque vendredi. À partir du 1er juillet, Miroslav Singer, actuellement vice-gouverneur de la Banque centrale, remplacera Zdeněk Tuma en poste depuis décembre 2000. 2 millions de visiteurs se sont déjà rendus dans le pavillon de la République tchèque à l'exposition universelle 2010 à Shanghai. Le pavillon tchèque attire le public par la façade ornée d'un plan stylisé du noyau historique de Prague, qui est la zone urbaine protégée par l'UNESCO. Le plan est formé par 40 000 palets de hockey sur glace. À l'intérieur, les visiteurs se pressent notamment devant des reliefs enlevés du pont Charles de Prague et qui représentent le martyr de Saint-Jean-Népomucène. Quelques 40 sympathisants du Parti ouvrier de la justice sociale, parti d'extrême droite, se sont réunis ce samedi dans la commune de Jedhoch, dans la région de la ville de Litoměřice en Bohême. Ils ont protesté contre la criminalité dans la commune et la passivité des organes compétents vis-à-vis du comportement délictueux de certains habitants de la ville. Un autobus tchèque a eu un accident au petit matin de ce samedi près de la ville d'Umag en Croatie. 21 personnes ont été blessées, dont 4 femmes qui ont dû être hospitalisées. Les jours de ces personnes ne sont pas en danger. Météo, ce dimanche, fête de toutes les quiétas selon le calendrier tchèque. Le temps en Tchéquie est nuageux à couvert avec de la pluie par endroit et la température ne dépasse pas 18 degrés. Lundi, le temps en République tchèque restera nuageux à couvert. Il pleuvra par endroit et la température de diurne varieront de 15 à 19 degrés. C'était les informations de Radio Prague qui vous ont été présentées par Václav Richter. Et maintenant, voici Anna Kubišta et la reprise du de ses rubriques Culture sans frontières. Ah !
Culture sans frontières, Anna Kubišta.
Clara Nademlinska, bonjour. On se trouve dans votre boutique à Prague, qui se trouve dans la rue Dlouhá. Vous êtes styliste tchèque, mais vous avez vécu pendant une dizaine d'années en France, d'où votre très bon français qu'on entendra tout à l'heure. Alors déjà pour commencer, comme première question, j'aimerais savoir d'où vient ce goût pour les vêtements, pour la confection de vêtements. Est-ce que petite, c'était quelque chose qui vous plaisait déjà?
Oui, en fait, ma mère, elle a travaillé à la maison depuis ma naissance. Elle était couturière. Elle a fait aussi l'école pour le style plus tard. Mais depuis ma naissance, en fait, elle a resté à la maison et elle avait sa clientèle qui venait chez elle. Donc, j'ai grandi entre les tissus, les ciseaux, les fils. Je vis ma mère... pendant le travail, comme elle a fait les essayages, elle a coupé, elle a préparé les choses pour les essayages. Ça me plaisait déjà comme toute petite fille, donc
Vous avez essayé vous-même de vous servir un petit peu de ces instruments?
Oui, j'ai essayé. J'ai toujours essayé couper les tissus ou les coudre à la main. Ça me plaisait beaucoup. Et aussi, mon grand-père, il était pas du tout côté typiquement créatif, mais il était l'ingénieur de bateau. Mais quand même, il avait le goût pour le dessin, pour les choses comme ça. Et on a dessiné beaucoup ensemble. Donc, c'était les deux choses qui me plaisaient déjà comme j'étais toute petite. Et en fait, après, je voulais continuer la route avec les vêtements. J'ai jamais pensé faire, en fait, quelque chose d'autre.
C'est quasiment prédestiné, en fait. Vous avez fait des études pour ça, donc, ici à Prague?
Je finis le bac, si on peut dire en français. C'était l'école qui apprenait le côté pratique et aussi le côté un peu de style, mais c'était assez différent de l'école qui existe aujourd'hui ou qui sont en France. On avait un peu de tout. C'était vraiment les gens qui voulaient travailler dans la mode. Ils voulaient faire par soi-même, apprendre et vraiment s'intéresser. Déjà pendant l'école, j'ai commencé à faire... mes premières modèles, toute petite collection de 5 pièces qu'on a présentées ici en République tchèque sur les défilés pour les jeunes créateurs qui étaient à l'époque ici, qui existaient.
C'était quand ça?
C'était entre 84 et 88.
Et alors, c'était possible de faire comme ça de la mode j'allais dire, on associe souvent le communisme quand même à un côté très gris, pas très original au niveau de la mode. Voilà, on n'imagine pas qu'il y ait eu de l'inventivité finalement. Mais vous, quand même, vous avez fait vos études à cette époque-là.
Ça existait, mais c'était un milieu vraiment très fermé. C'était pas le grand public comme aujourd'hui. De temps en temps, ça sortait dans les magazines pour les jeunes ou les magazines qui étaient un petit peu, qui avaient les articles autour des dessins et de la mode, mais c'était vraiment, on peut pas comparer avec ce qui existe aujourd'hui. C'était vraiment tout petit, tout petit. Pendant l'école, je fais connaissance de mon mari qui était là sur le FAMU, l'école de film et photo. On se dit que dès que je finis l'école, on va partir, on va essayer quelque chose ailleurs. Et on a fait, c'était en 88, on a un peu voyagé autour de l'Europe. Et moi, j'ai toujours aimé Paris. C'était ma ville de rêve. Donc,
et puis c'est un peu la capitale de la mode traditionnelle.
Oui. Donc, comme j'avais 18 ans, c'est mes parents qui m'ont acheté une voyage pour une semaine de visiter Paris. Et j'étais sûre tout de suite que c'était la ville que j'aime vraiment beaucoup. J'avais l'impression, même si j'étais jamais là, de la connaître, même si je la connaissais pas du tout. J'ai fini l'école, on se mariait, on est parti à Paris. On connaissait personne, on parlait pas du tout français. on est parti comme ça.
Vous étiez des aventuriers alors, hein?
Oui. Et un peu par un peu, on a commencé à connaître les gens. On a commencé à apprendre un peu français. J'ai jamais fait les études, j'ai appris comme ça, juste.
Et au niveau alors de votre métier, comment est-ce que vous avez fait un petit peu pour vous repérer dans la jungle parisienne? Parce que quand même, c'est ce qu'on disait, c'est en effet la capitale de la mode. Il y a plein de gens et plein de jeunes, sans doute aussi autres qui viennent de l'étranger ou même en France qui viennent et qui ont l'espoir de faire un peu leur trou là-bas. Comment est-ce que vous avez un peu fait le vôtre?
Moi, je commençais par les agences des mannequins où je fais un petit peu de mannequins, mais c'était plutôt pour commencer à connaître les gens de milliers de la mode, donc ça durait peut-être un an et demi. Et un peu par un peu, j'ai commencé à avoir les amis, j'ai commencé à faire les vêtements pour mes amis. Et une des premières choses que je fais, c'était pour en fait un styliste tchèque qui avait sa société à Paris. On se connaissait pas de Prague, on se rencontrait à Paris. Et je travaillais pour lui. Comme couturier, après je faisais j'étais comme le modéliste pour je faisais les coupes pour ses vêtements par rapport à ses dessins. Un peu par un peu, le millier de gens s'est agrandi. Et un jour, une copine, elle me dit, écoute, je m'habille chez une société qui fait les vêtements prêt-à-porter de luxe pour les femmes. Tu m'as toujours bien coupé mes vêtements. Tu veux pas essayer venir de travailler? Je dis oui. Après, je restais chez cette société 7 ans, en fait.
Et pourquoi alors vous avez décidé de partir ou vous avez décidé de revenir ici à Prague? C'était une envie finalement, après tout ce temps passé à Paris, de voler un peu de vos propres ailes?
J'avais envie de faire plus en plus mes vêtements et de trouver mon propre style, de faire quelque chose à moi. Et je commençais à faire mes petites collections que je venais présenter à Prague. Et un peu par un peu, je trouvais que les gens ici commencent voir les choses différemment, d'avoir envie de se habiller, de se faire le plaisir. Et donc, je me suis dit, à un moment, il faut aller se décider, Prague ou Paris. Donc, je me suis dit, pourquoi pas les choses que j'ai apprises à Paris, pas rapporter à Prague et d'essayer de faire ma société, ma ligne ici. Après 10 ans à Paris, je retournais à Prague.
Alors, de manière un peu plus générale, un peu sur la mode ici en République tchèque, du point de vue étranger, j'allais dire, de ce que je peux entendre ou de ce que je peux voir, je vais essayer de pas émettre un jugement de valeur trop critique non plus, on a souvent tendance à trouver que les Tchèques, les femmes, s'habillent de manière un peu trop tape à l'œil, et les garçons, disons les hommes, de manière peu élégante. Je donne l'exemple classique, c'est la chaussette dans la sandale. Voilà. Les amis me le disent, les gens que je connais, etc. Du point de vue extérieur, c'est un peu ça qui frappe. Est-ce que vous pensez que ça change ou encore ça reste, ça perdure un petit peu ces habitudes-là?
Si je dois parler à la clientèle de notre boutique, en fait, c'est les femmes qui sont trouvées son style, pas juste dans les vêtements, de leur vie, le travail, le voyage, la famille, tout. Donc, elles sont sa vie, elles savent qu'est-ce qu'elles font, elles veulent s'habiller différemment, elles sont son style, mais c'est juste une petite groupe de gens, mais si on parle généralement, comme vous avez dit, c'est vraiment, je trouve aussi que beaucoup les Tchèques, les femmes sont belles, mais...
ne savent pas le mettre en valeur forcément.
Ouais, des fois, elles mettent trop.
Pourtant, il y a quand même des boutiques. Hein. Enfin, je veux dire, quand on regarde maintenant à Prague, je veux dire, il y a quelques années, c'était impensable. Je ne vais pas citer de marque, mais il y a beaucoup de prêt-à-porter, pas très cher, abordable, joli. Et bon, ce n'est pas forcément de la très grande qualité, mais enfin, ça sert au quotidien. Il y a quand même matière à acheter. C'est une question de goût aussi ou d'habitudes qui sont restées?
Oui, c'est aussi le goût et c'est... il faut, je pense, plusieurs générations que les gens vont faire ça naturellement. Parce que pour le moment, c'est qu'est-ce qu'on voit dans les journaux de la mode, on se met. C'est pas les gens, ils sont pas d'habitude de penser eux-mêmes. Et je pense aussi, des fois, ils se cachent derrière le vêtement. Et qu'est-ce que j'adore, par exemple, en France, ou dès que, comme je fais le... je dois parler de style, je toujours dans les français comme les exemples, que en fait les gens ils s'habillent comment ils sont. Ils mettent d'abord sa personnalité et le vêtement ça leur aide de mettre sa personnalité devant. Les Tchèques des fois c'est la personnalité qui se cache derrière les vêtements, qu'est-ce qu'ils mettent. Aussi il y a pas mal de gens à Prague qui gagnent assez bien sa vie. Donc, ils s'habillent chez les marques étrangères qui sont assez chères. Et des fois, les femmes, elles pensent que si elle est toute en Dior, que ça veut dire qu'elle a le bon goût, le bon style. On peut rien dire. Donc, des fois, les gens, ils se cachent derrière les grandes marques et ils pensent que c'est ça.
Quand vous envisagez de nouveaux modèles ou une nouvelle collection, vous partez de quoi? Vous partez? Quelles sont un peu vos inspirations? C'est la manière dont vous aimeriez vous habiller ou ce que vous aimeriez porter?
Oui, c'est beaucoup. Qu'est-ce que j'aimerais bien moi mettre, même si après la moitié de la collection je mets pas, mais c'est quelque chose que j'aimerais bien d'avoir moi personnellement. J'ai aussi beaucoup de souvenirs de mon enfance, comme parce que ma mère, c'était une belle femme, elle avait le style pour s'habiller, donc c'est aussi pour moi un peu d'histoire des sentiments, comment je me sens, qu'est-ce qui se passe dans ma vie, autour de moi, si je vois un film, si j'écoute la musique, si je voyage, je vois les couleurs. Donc c'est un peu une mélange de tout ça. Et, donc, un peu par un peu, je fais comme un Lego, ça commence à se mettre en sorte. Ouais, ça prend une forme.
Est-ce que vous avez des tissus un peu fétiches que vous réutilisez assez fréquemment?
J'aime beaucoup les tissus naturels, la soie et le lainage, et aussi beaucoup de jersey. Je préfère les tissus qui sont assez fluides, un peu, qui sont le tombé, qui donnent une forme souple. Je ne suis pas très tissu rigide, j'aime bien que ça soit assez féminin, assez doux.
Teresa Maxova est le visage de vos modèles. Comment s'est fait cette rencontre entre vous et Teresa Maxova, qui est donc une mannequin très connue tchèque?
On se rencontrait à Paris, parce que tous les deux, notre début c'était à Paris. Elle est venue comme mannequin. On se voyait de temps en temps, on a resté toujours en contact, et on est devenus amis. Et après un jour, je pense, je sais pas, c'était 2001, et la société, on l'a fait en 98, on a commencé à Prague, donc le 2001, je pense, qu'on se dit, on va essayer avec Teresa si elle a envie d'essayer de faire les photos avec nous, parce que c'est aussi toujours mon mari qui fait les photos de la collection. Et elle a vu qu'est-ce qu'on a fait avant, elle a aimé les vêtements et donc elle a dit oui, on va faire. Donc on n'est pas juste amis, mais elle est aussi le visage de ma collection, parce que elle, pour moi, c'est quelqu'un qui a une beauté, pas juste extérieure, mais surtout l'intérieur. C'est vraiment une personne qui est très chaleureuse. Elle a un personnage vraiment positif. Elle sourit toujours. C'est vraiment une femme, pour moi, idéale.
Très bien. Bah, écoutez, merci beaucoup, Clara Nademinska, de cette rencontre.
Merci aussi. Merci.
Vous avez dit la République tchèque, voyagez donc. Jarka Gisubelova.
Bonjour et bienvenue à tous les fidèles de cette nouvelle édition du guide touristique de Radio Prague. Direction aujourd'hui le château de Velké Březno, un château de la région d'Ústí nad Labem au nord de la Bohême, l'un des plus petits et des plus récents en République tchèque. Le château est réputé pour avoir été le siège du burgrave suprême du royaume de Bohême, le comte Karel Chotek. Il exerçait les fonctions entre 1826 et 1843 et s'est beaucoup employé en faveur de l'essor industriel et commercial des pays tchèques. Certaines publications citent son nom en parlant de la plus vaste modernisation de Prague depuis l'ère de Charles IV. Karel Chotek a doté la ville d'un nouveau pont, d'un quai, des parcs, des voies de communication et a connecté Prague au réseau de chemins de fer. À sa mémoire, les jardins et la route au pied du château de Prague portent son nom. C'est en 1845 que Karel Chotek a fait construire à Velké Březno un château qui restera pendant 100 ans jusqu'en 1945, une résidence familiale. Son aspect actuel est le résultat de remaniements entrepris à la fin du 19e siècle, à l'époque où habitait ici la petite fille de Karel Chotek, Joffie, Sophie. Sophie s'est distinguée pour avoir épousé le successeur au trône d'Autriche-Hongrie, François Ferdinand d'Este. Dans quelques jours, précisément le 28 juin, nous commémorerons le 96e anniversaire de l'assassinat du couple à Sarajevo en 1914, un acte qui sera le point de départ de la Première Guerre mondiale. La mixité des styles, néo-renaissance, romantique et empire, est typique pour le château de Velké Březno, raconte notre guide Hanna Kinska.
Zámek opravdu vypadá velice jednoduše. V tomto stylu empírovém si Karel Chotek nechal ten zámek postavit.
Au départ, il avait l'air assez simple, voire austère. À l'époque, le style empire est en vogue et c'est dans ce style que Karel Chotek fait construire sa résidence. Au premier étage, son portrait domine la grande salle où on donnait des concerts et organisait des bals. Sur ce portrait, Karel Chotek est représenté en tant que chevalier de l'ordre de la Toison d'Or, la plus haute distinction de la monarchie autrichienne, qui ne pouvait être attribuée qu'aux personnes d'une loyauté inébranlable à la maison des Habsbourg. À ses côtés, un vase en argent que le comte a reçu de la ville de Prague pour ses mérites pour la modernisation et le développement de la ville. Le petit-fils de Karel Chotek a conféré au château son image actuelle. Les remaniements, qui ont duré jusqu'en 1910, devaient faire du château un siège pompeux, fasteux. Mais faute de finances, seule une partie des projets a pu être réalisée.
Mělo to být velice honosné, ale pak už měli málo financí, takže jenom malá část úprav se uskutečnila.
Le château est entouré d'un splendide parc à l'anglaise, d'une superficie de 5 hectares, avec une multitude d'arbres précieux, tout à fait rares dans la région d'Oustina de la Bême. Dans sa partie basse, il y a un étang avec une fontaine. La terrasse côté parc offre une vue sur les collines du massif central qui s'étendent partout autour et dont les formes assez étranges nous rappellent leur origine volcanique. Le comte Karel Chotek aimait séjourner dans cette résidence romantique aussi souvent que ses fonctions le lui permettaient. Ami et admirateur de Franz Liszt, il invitait souvent le compositeur à venir à Velké Březno. Lors de l'un de ses séjours dans ce château, Franz Liszt lui a dédié la composition pour piano intitulée « La chanson Hussite ». Le plus célèbre séjour du compositeur s'est effectué au tournant des mois d'août et de septembre 1853, lorsqu'il y était invité pour y donner un concert à l'occasion de la naissance du petit-fils de Karel Chotek. Le mobilier du château de Velké Březno est en grande partie le mobilier d'origine. La guide attire notre attention sur une grande armoire déménagée ici du bureau de Burggraf à Prague. Pour une anecdote, on raconte que tout éventuel reproche que Karel Chotek aurait reçu de la part de la cour de Vienne, il l'aurait rangé au fond de cette armoire. Dans son cabinet, on peut admirer de nombreux objets d'origine et des curiosités comme un coffret qui est conçu comme une copie fidèle d'un palais japonais en miniature. En automne prochain, à l'occasion des journées du patrimoine européen, de nouvelles salles seront ouvertes au château de Velké Březno. Parmi elles, la chambre du jeune comte Karel ou la salle de bain de style Art Nouveau. Quatre générations de la famille Chotek ont vécu pendant 100 ans à Velké Březno, jusqu'à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. En 1945, le château a été nationalisé. Ses locaux ont abrité une école politique et un foyer de l'enfance. Dans les années 1960, il devait servir de dépôt des bibliothèques des châteaux voisins avant qu'on ne décide de le restaurer et le rendre accessible au public, raconte Hanna Kinska.
Poslední majitel, tedy právnuk zakladatele, se s manželkou v roce 45 vystěhoval do Německa.
Le dernier propriétaire, l'arrière petit-fils du fondateur et son épouse ont déménagé en 1945 en Allemagne. La famille s'est éteinte sans laisser d'héritier. L'une des deux sœurs du dernier propriétaire s'est suicidée. L'autre est rentrée au couvent. Sophie Krotek a été victime de l'attentat de Sarajevo et son frère est mort sans laisser d'enfant.
Protože ku podivu jediný syn z Dolního zámku, bratr té Sofie Chodkové, ten byl také bezdětný.
Après la visite du château, le guide recommande aux visiteurs de Velké Březno de faire une escale dans la brasserie d'en face, le visage d'un Tchèque devenu célèbre pour être l'homme le plus souvent représenté sur un portrait, Monsieur Tzibich, nous regarde l'étiquette de chaque bouteille de bière qui est brassée depuis déjà 1906 et qui est exportée vers le monde entier, en Amérique latine, en Vietnam, en Italie et même en France. C'est sur cet extrait de musique de Franz Liszt que notre émission se termine. Nous vous remercions de votre attention, passez une très bonne semaine et à très bientôt sur nos ondes.
En su receptor Radio Praga, emisiones de la radiodifusión checa para el exterior. Radio Praga pone su primera emisión para España a las 8 horas UTC, tiempo universal coordinado, por las frecuencias de 11.600 kHz. A las 14 horas UTC transmitimos para España por los 11.720 kHz. A las 18 y 19 horas UTC los oyentes españoles nos pueden sintonizar por 5.930 kHz. Radio Praga transmite a las 20:30 horas UTC para España y América Latina por los 5.930 kHz. Los oyentes latinoamericanos nos pueden sintonizar a las 23 horas UTC por las frecuencias de 9.440 kHz. A las 0 horas UTC salimos al aire por los 9.445 kHz a través de la repetidora en la Isla Ascensión. A las 0:30 horas UTC los radioescuchas de Centro y Sudamérica nos pueden sintonizar por los 9.790 kHz.